tout puissant et il a tout pouvoir, comme nous allons le voir. Donc notre vie est entièrement sous son contrôle depuis bien avant la création du monde et jusqu'à toute l'éternité. Souvent, dans notre foi chrétienne, enfin ce qui caractérise un peu la foi chrétienne, c'est vraiment une recherche, voilà, de sincérité, d'intimité avec notre Dieu. Et la foi chrétienne, eh bien, c'est oser se remettre en question. La foi chrétienne, c'est aussi se mettre à nu devant Dieu. Et pour rechercher son aide, pour coller le plus à sa volonté, à ce que l'on comprend. Et des fois, ce chemin de vie, ça peut être un peu stressant ou un peu décourageant, parce qu'on se dit, mais j'y arrive pas, hein, toujours, je suis peut-être pas au top avec Dieu. Mais voilà, Dieu, en tout cas, ne veut pas que nous soyons stressés, découragés dans notre marche, parce que, justement, eh bien, il est là à chaque étape, il nous voit et il n'attend pas des choses excessives de nous. Et il a une progression pour nous et nous pouvons lui faire entièrement confiance. Tout est sous son contrôle. Alors ce matin, je vous invite à faire un petit voyage dans le monde invisible. Et puis ensuite, nous étudierons rapidement deux textes en application. On peut changer la slide. Voilà. Faisons donc un petit voyage ensemble. Quittons pour un court instant la réalité de cette église, la réalité de notre corps, assis sur une chaise, pour aller voir ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Notre Dieu, notre roi, est dans le monde céleste, assis sur un trône. Il exerce une autorité totale. Son règne domine sur tout. Psaume 103, 19. Rien n'échappe à son gouvernement. Il s'occupe de la nature, il s'occupe des nations. Il définit les temps et les heures. Il dirige l'histoire. Le roi est dans son royaume depuis bien une éternité. Le roi et son royaume n'ont pas de commencement et il n'y aura pas de fin. De son trône de grâce, il prend soin de tous les humains, et en particulier de ses sujets, les humains qui appartiennent à son royaume, qui pour l'instant sont sur terre. Il les guide, les nourrit, les accompagne. Il déploie même le soleil, la grêle, les frelons, toutes sortes d'animaux pour que sa volonté soit faite. Il protège, il délivre, il s'implique dans des guerres, des délivrances, des exodes, des guérisons. Dans son royaume, il a aussi établi des règles, des commandements, des normes, un chemin de vie. Et il a très envie que tous les humains comprennent le bien fondé de ce qu'il commande. De son trône, il discerne le bien, le mal, il est le juste juge. Rien ne lui échappe, il a le mal en horreur. En quelques mots, ce roi est omnipotent, il peut tout, il est omniscient, il sait tout, il est omniprésent, il est partout. Et ce qui le définit, son essence, tient en trois mots, il est amour, il est justice, il est saint. Oh, il y a de l'agitation dans les lieux célestes, quelque chose se prépare. Sur le même trône, à la droite du roi, le Père, il y a un homme, en habit blanc, Jésus son fils, roi comme lui, Dieu comme lui. Ils s'aiment et ils sont en parfaite communion. Quand l'un a une idée, l'autre l'a aussi. Quand le Père, le roi, pense quelque chose, c'est le Fils même qui le dit. Cet homme en blanc est marqué suite à son séjour sur terre. Il a des marques des clous sur ses mains et ses pieds, la marque de la lance qui lui a traversé le côté. C'est Jésus ressuscité, dans un corps céleste. Il a rempli son rôle, venir annoncer l'amour du Père aux habitants de la terre, la réconciliation possible avec le Dieu Tout-Puissant. Il est venu donner sa vie pour les humains. Et il est maintenant assis à la droite du Père sur le trône, observant passionnément ce qui se passe sur terre. Et il intercède pour chacun de ses sujets, chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Et par ailleurs, il s'active à leur préparer une place à côté de lui, parce qu'ils viendront quand Dieu, le Dieu Père, le Roi Père, l'aura décidé. Il y a dans ce royaume une ambiance chaleureuse et lumineuse. Et il y a de la musique aussi. Le trône n'est pas dans un château. Le trône est dans un temple magnifique, fait de pierres précieuses. Et il y coule une grande rivière, un fleuve plutôt, qui nourrit les poissons, les arbres, les fleurs. Ce torrent de vie est aussi l'Esprit Saint, un fleuve qui se répand jusqu'au monde des humains, dans les cœurs de ceux qui veulent de lui. Et puis il y a des anges, des millions d'anges, certains avec des ailes. Ils se déplacent très vite, certains sur des chars de feu. Ce sont des guerriers ou des messagers. Ils attendent leurs ordres au pied du trône, puis vont réaliser la volonté de Dieu sur terre. Ils sont très organisés, en armée. Il y a des chefs, des sous-chefs, et patiemment, eh bien, ils se tiennent au service du roi. Oh, il y a de l'agitation dans le royaume des cieux. Oh, quelque chose se prépare. Je me demande si ce ne serait pas une fête. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a un autre royaume en compétition. Ce n'est pas vraiment un royaume, puisque son chef est appelé simplement un prince. Prince de ce monde, c'est le diable, le tentateur, le serpent ancien, l'accusateur, l'adversaire de Dieu. Il n'est que prince, il n'est pas roi. Et en plus, sa vie et son action ne sont pas éternelles. C'est une créature, probablement un ange déchu, qui a entraîné avec lui un tiers des anges célestes. Il n'est pas omniprésent. Il vient, il part. Il n'est pas tout-puissant. Il ne connaît pas tout. Jaloux de Dieu, il essaye de détruire sa création. Par ses mensonges, il pousse les humains à pécher, à s'éloigner de Dieu, de ses valeurs, de ses commandements. Mais voilà que tout ceci n'a plus vraiment d'importance. Car Jésus, le roi fils, l'a vaincu à la croix. Satan est vaincu. La mort est vaincue. Satan croyait détruire l'œuvre de Dieu en poussant les Juifs à tuer Jésus, mais c'est le contraire qui s'est passé. En mettant Jésus à mort, le serpent s'est mordu la queue. Le serpent est mourant, tandis que Jésus est bien vivant. Et il a pris avec lui les hommes pour les racheter et leur ouvrir la voie de la résurrection. Cette petite principauté satanique est en survie provisoire. Elle se débat provisoirement. Sa fin est proche. Oui, il y a de l'agitation ici. C'est bien ça. C'est un mariage qui se prépare ici. Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, les anges sont dans la joie. Car bientôt, ils accueilleront pour la vie éternelle, la vie parfaite, l'épouse, l'Église que le roi fils a bâtie. Les tables sont prêtes, les fourneaux chauffent, le buffet sera magnifique, il est bientôt prêt. L'épouse, elle, se prépare de son côté sur terre. Elle est constituée des chrétiens fidèles, nés de nouveau, qui attendent patiemment ce moment. Quelle joie, Bientôt ils seront réunis. Dieu habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Apocalypse 21. C'est agréable, n'est-ce pas, de faire un tel voyage pour nous remémorer les réalités célestes. Et si j'ai choisi ce thème ce matin, c'est parce que Jésus, entre sa résurrection et l'ascension, a parlé pendant 40 jours de son royaume. C'est ce que nous dit le livre des Actes, acte 1, 3. « Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. » Donc un thème tellement important pour après l'envoi des disciples et puis pour notre propre vie aussi. Et ce thème, voilà, Paul aussi l'a repris. Et dans une de ses prières, voilà, il le dit clairement. Sa prière, c'est que nous connaissions l'espérance à laquelle nous avons été appelés, premier point, que nous ayons pleinement connaissance aussi de l'héritage que nous avons déjà en Christ et qui nous attend aussi. Et le troisième point, c'est que nous connaissions, que nous reconnaissions, que nous ayons conscience de la puissance que Dieu déploie pour nous aujourd'hui en notre faveur. Trois points, l'espérance, l'héritage, et la puissance que Dieu déploie pour nous. Alors, je vous propose de lire deux passages maintenant qui nous permettront de voir que le royaume de Dieu, vraiment, est présent dans notre quotidien. Et le premier passage que je voudrais lire avec vous, c'est 2 Rois 6, versets 8 à 17. Un petit peu moins que 17. Il s'agit donc d'un épisode de l'Ancien Testament et de conflits entre deux territoires, Israël et la Syrie, au nord. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Il tint conseil avec son état-major et décida « J'établirai mon campement de tel ou tel endroit. » Immédiatement, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi bien de passer par tel endroit. » car les Syriens y ont pris position. Alors le roi d'Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à l'endroit que lui avait indiqué l'homme de Dieu. Cela se produisit à plusieurs reprises, au point que le roi de Syrie en fut profondément troublé. Il convoqua ses officiers et leur dit « Ne voulez-vous pas me dire qui parmi nous est du côté du roi d'Israël ?» L'un de ses officiers lui répondit « « Personne, mon seigneur le roi, c'est Élisée, le prophète d'Israël, qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit « Allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire saisir. » On vint lui annoncer « Il est à Dothan. » Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria, « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voilà, donc dans ce simple passage, donc on comprend que le roi de Syrie... tu peux revenir en arrière. Voilà. Je vais d'abord un peu débroussailler le texte avant de tirer quelques conclusions. Voilà, le roi donc de Syrie se met en guerre contre Israël. Et puis, chaque fois que le roi de Syrie arrive d'un côté, eh bien, c'est comme si le roi d'Israël était déjà au courant. Donc, le roi de Syrie se dit, mais il doit y avoir une taupe dans mon armée. C'est pas possible. Et puis, un de ses serviteurs lui dit, non, mais en fait, c'est qu'il y a un prophète dans le royaume d'Israël, et c'est lui qui révèle tes projets au roi. Et du coup, ce roi de Syrie s'est dit, ah ben alors je vais aller tuer d'abord ce prophète. Hein, il est intelligent quand même, il réfléchit. Et donc, il se renseigne où est ce prophète, il le fait encercler, il veut donc aller le tuer, hein, il est prêt à le tuer. Et donc le serviteur d'Élisée, donc ce prophète, voit tous les chars, toute l'armée ennemie qui les a encerclés, et il prend peur. Tandis que Élisée, lui, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit les chars de feu, il voit l'armée de Dieu, en fait, qui a aussi occupé toutes les montagnes autour. Et du coup, il dit à son il dit à Dieu, « Seigneur Dieu, ouvre, s'il te plaît, les yeux de mon serviteur pour qu'il voit aussi cette armée céleste qui vient, qui est là pour nous protéger. » Donc, c'est un texte voilà, merveilleux de l'action de Dieu. Et si tu veux bien avancer, on peut en tirer voilà, trois choses. Hein. Donc, déjà, c'est que le monde spirituel existe. Il y a des choses dans le monde spirituel qu'on ne voit pas, qui existent, qu'on ne voit pas à l'œil nu, sauf si ben, Dieu nous le permet de le voir. Et dans ce monde spirituel, eh bien, il y a des anges qui sont présents, en tout cas, et qui, voilà, qui agissent en serviteurs de Dieu et qui sont armés aussi, hein, parce qu'il y a des chars de feu là. Voilà. Et troisième chose, donc les serviteurs de Dieu sont protégés, même si le danger, voilà, il est imminent. Dieu a une solution à chaque danger. Alors certains, à partir de ce texte ou d'autres, se disent « ben, on va prier les anges, comme ça ils vont venir ». Mais voilà, ça se passe pas comme ça. C'est Dieu, le roi, qui envoie, s'il veut, ses anges. Nous pouvons prier, voilà, le Père Céleste, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, qui va donner une réponse. Voilà, des anges ou autre chose, conduire les circonstances, conduire les événements, nous donner une capacité. Voilà. Il y a plein de choses que le Seigneur peut faire. Donc, j'ai choisi ce passage pour nous encourager, pour nous dire aussi, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est présent et toute son armée est présente aussi pour nous. On n'est jamais seul dans notre chambre quand on prie, on n'est jamais seul dans notre voiture, on n'est jamais seul dans un lit d'hôpital. On n'est jamais seul. Et Dieu est là pour nous. Et merci à lui parce qu'il est là, et même si on ne le voit pas, il est là. Je vous propose un deuxième texte dans le Nouveau Testament. Il s'agit de l'annonce du reniement de Pierre. L'annonce du reniement de Pierre. Vous savez que Pierre a renié le Christ par trois fois, et Jésus l'avait prévenu. Donc, on va voir ce qui se passe et on va voir ensuite son rétablissement. Donc, on va lire le passage, c'est dans, ceux qui veulent suivre, c'est dans Luc 22, versets 31 à 34. Simon, donc c'est Jésus qui parle, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir. Pierre, reprit Jésus, je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu auras par trois fois nié de me connaître. Donc dans ce passage, on voit que Jésus cherche à capter l'attention de Simon. Simon, Simon, on dit deux fois le prénom. Fais attention. Et Jésus aussi est déjà au courant de la trahison qui va avoir lieu. Et Jésus est au courant que Satan, eh bien, est toujours à l'œuvre, méchamment, méchamment à l'œuvre, puisque là, il secoue, hein. Vous savez, quand on sépare les grains de blé des gerbes de blé, eh ben, ça part pas comme ça, hein. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Il faut vraiment taper, écraser pour que le grain de blé il sorte. Et c'est ce que fait Satan avec nous, hein, mais là, enfin avec les disciples, hein, avec les croyants, il secoue, il crible, il voilà, il veut pas les laisser tranquilles. Mais Jésus le sait. Et il le dit, voilà, tu vas être secoué, mais j'ai prié pour toi. Donc, Jésus prie, et là, on voit que même avant que ça se passe, Jésus, il a dit, j'ai déjà prié pour toi. Donc, vraiment, on a, voilà, un Dieu omniprésent, qui sait tout, qui intercède. Donc, ce qui est aussi intéressant dans ce passage, la dernière chose, c'est que il est dit « Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. » Donc Jésus sait même que Pierre va se repentir et qu'il va revenir. Et ce qui est intéressant, c'est « Lorsque tu seras revenu vers moi », ça veut dire que c'est pas Jésus qui va le quitter, mais c'est en fait Pierre qui va s'écarter et qui va revenir. Donc, Jésus tolère, en fait, hein, enfin, Dieu tolère que l'on s'éloigne, même si c'est pas dans son projet. Mais en tout cas, il nous attend. Il attend que l'on revienne, un petit peu comme la parabole du fils prodigue. Donc, Simon, bah, bien sûr, il n'écoute pas, hein. Il renie par trois fois avant que le coq ne chante. Et il pleure amèrement, il se repent sincèrement. Et je vous propose maintenant de voir la suite, le rétablissement, parce que c'est intéressant aussi pour comprendre les règles du royaume. Donc, les disciples étaient partis pêcher, et puis ils ne prenaient rien. Ils ont pêché toute la nuit, ils ne prennent rien. Et le lendemain matin, il y a un homme sur le rivage qui leur dit, les enfants, est-ce que vous avez pris quelque chose? Ils disent non, rien. Alors cet homme sur le rivage leur dit, ben, jetez les filets. À droite de la barque. Et donc, je vais lire le texte. Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter tellement il y avait de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » En attendant que c'était le Seigneur, Simon Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à une centaine de mètres du rivage. La suite, voilà. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. « Venez manger, » leur dit Jésus. Chacun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu ?» Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur distribua, puis il fit de même avec le poisson. Donc il les restaure. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » « Oui, Seigneur, » répond-il, « tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » ?»« Oui, Seigneur, » lui répondit Simon, « tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'est la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Donc on voit dans ce passage que Pierre, eh bien, il est content. Il saute du bateau, il nage, et on se dit, bon, ben, il va aller se réconcilier avec Jésus, il va aller parler à Jésus. Hein, il l'a renié, il s'est repenti. Et on voit en fait qu'il s'occupe des poissons, il s'occupe du bateau, il s'occupe... voilà, il va pas voir directement Jésus. Et est-ce que c'est pas un peu comme nous aussi, hein, de temps en temps, on n'ose pas aller voir directement Jésus, aller le parler, ouvrir notre parole, la parole de Dieu. Bon, on s'est éloigné, puis on n'ose plus, hein. Voilà, on n'ose plus. On a un peu honte, on a un peu honte. Mais voilà, il y aurait pas à avoir honte, hein. Il est là, il attend qu'on revienne, tout simplement. Donc, c'est Jésus qui y va et qui s'adresse, parce que Jésus, il aime régler les choses. Il s'adresse à Pierre et on remarque qu'il ne lui dit pas « Je te l'avais dit, tu n'as pas écouté. » Hein ? Jésus n'est pas dans la réprimande, Jésus est toujours dans l'accueil. Il ne lui dit pas « Non, mais c'est pas possible, pas toi, après ce que tu m'as dit. » Il lui dit pas « Ah bon, allez, t'es un bon à rien, rentre-toi. » Il lui dit pas « Bon, allez, raconte-moi ce qui s'est passé, mais à tel moment, t'aurais pas pu dire le contraire. » Et il lui dit pas « Mais qu'est-ce que tu es allé faire dans cette cour ?» Hein ? Donc, c'est beau. Notre Dieu, il n'est pas là pour nous faire des réprimandes inutiles. Parce qu'il y a des, voilà, il y a des valeurs dans le royaume de Dieu. Il y a l'accueil et pas la réprimande. Aucun reproche. Jésus lui demande simplement « M'aimes-tu ?» Parce que le trône sur lequel siège notre roi, notre Dieu roi, c'est un trône de grâce avant tout. Et Dieu ne tient pas rigueur, il pardonne. Il dit en « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et le pardon, c'est quelque chose de facile à demander et à recevoir. Hein, quand on lit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Voilà. Dans les valeurs du royaume, le pardon, voilà, c'est quelque chose d'accessible. N'a pas à faire pénitence, à se traîner par terre, voilà. Simplement que nous reconnaissions nos péchés, que nous reconnaissions. Voilà. Et puis, ce que l'on voit, c'est que l'échec ne nous définit pas. Notre identité n'est pas liée à notre faiblesse, à nos échecs. Dieu, voilà, sans cesse nous renouvelle. Il sait de quelles pattes nous sommes faits. Il sait notre faiblesse. Et il a même déjà porté tous nos péchés, passés, présents, futurs, à la croix. Hein. Donc, notre identité est sans cesse renouvelée. Je ne suis pas le loser, je suis directement l'héritier. Je suis l'héritier. Même si je peux chuter, je suis l'héritier. Le nouveau départ, c'est toujours possible, parce que son amour est inaltérable. Jésus lui demande « M'aimes-tu ? » M'aimes-tu ? Voilà, c'est la question. M'aimes-tu ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que aimer ? Aimer, c'est d'abord voir l'autre. Voir l'autre. Hein, quand on n'aime pas les gens, en général, on les regarde pas. C'est pas bien, mais... Alors, aimer, c'est d'abord voir l'autre. Et puis après, on apprend à le connaître, à le reconnaître, comme on a dit. Et puis ensuite, eh ben, il y a des sentiments qui naissent. Il y a un attachement qui vient. Et puis une confiance qui s'installe, des échanges de services, la confiance. Et puis après, il y a l'envie de vivre avec la personne. Il y a envie d'avoir une alliance avec la personne. Voilà. L'amour est un process, en fait. Et dans ce passage que vous connaissez sûrement, il y a deux verbes pour dire aimer dans ce passage. Il y a l'agapao qui est aimer très profondément, très fort comme Dieu nous aime, et puis il y a philéo qui est la case au-dessous, hein, aimer comme un ami. Et Jésus lui dit du coup, où t'en es dans ton amour pour moi? Tu me vois, tu me connais, t'as confiance, tu veux me suivre, tu veux faire alliance, t'en es où un peu dans ton amour pour moi? Est-ce que c'est le top, tu m'aimes au top, ou est-ce que tu m'aimes en dessous? Et donc deux fois, Jésus demande, tu m'aimes au top? Et Pierre répond, non, je t'aime en dessous. Est-ce que tu m'aimes au top? Non, je t'aime un peu en dessous. Et Jésus dit, tu m'aimes en dessous? Et Jésus dit, et Pierre il dit, bah oui, je t'aime en dessous. Et c'est intéressant parce que dans les trois fois, Jésus lui dit, c'est ok, je te donne une mission, vas-y, occupe-toi des frères, occupe-toi des brebis. Donc voilà, c'est intéressant de voir que Pierre, voilà, il a essuyé une trahison et donc il veut pas dire ça y est Seigneur, moi je vais t'aimer au top, je suis au top de ma vie avec toi et je t'aime. Non, Pierre, il va être honnête, il va dire voilà, je suis là, Seigneur, j'en suis là dans ma vie maintenant. Et Jésus l'accueille comme ça. Et voilà, nous accueille comme ça. C'est ça qui est formidable. C'est vraiment le trône de grâce. Dans notre quotidien, nous avons accès à ce trône de grâce, à ce cœur du Père bienveillant. Alors, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, dans votre relation avec le Seigneur, avec Jésus. Où est-ce que vous en êtes dans vos combats, dans votre échec, dans vos échecs? Mais en tout cas, voilà, soyez sûrs que Jésus ne va jamais vous faire de reproches. Et il vous dira plutôt, je t'aime, et toi, est-ce que tu m'aimes? Et c'est une bonne question que de se le poser aujourd'hui, par exemple, mais tous les jours peut-être. Où est-ce que j'en suis dans mon amour avec Jésus? Est-ce que je l'aime beaucoup? Est-ce que dans la progression qu'on a citée, voilà, est-ce que je l'aime? Est-ce que j'ai de l'affection? Est-ce que je veux m'engager? Est-ce que je veux faire une alliance spirituelle avec lui? Est-ce que j'ai confiance ou est-ce que j'ai encore des peurs? Est-ce que j'ai des doutes? Et peut-être que ce matin, eh bien, à la lumière du royaume, de tout ce qu'on a dit, eh bien, c'est l'occasion de lâcher. De lâcher nos incompréhensions, de lâcher nos questions, de lâcher nos peurs. Pour faire un pas de foi en plus, pour voilà décider que voilà nous avons fait notre vie d'une certaine façon et Dieu y était un peu peut-être beaucoup et peut-être voilà se dire maintenant je veux que ma vie soit vraiment à sa lumière, que il soit le roi, que je sois simplement son serviteur, son héritier. Je veux plus porter, Seigneur, des choses inutiles que toi tu portes, que toi tu donnes. Voilà, ce matin, c'est peut-être l'occasion de, voilà, de décider que nous voulons vivre ce royaume invisible, ce trône de grâce, tous les jours avec nous. Que nous voulons aller plus loin avec Dieu, nous mettre à genoux avec lui. Et dire, Seigneur, voilà, je te dépose tout. Je veux que ma vie change aujourd'hui, que tu la changes. Parce que tu peux la changer. Tu es le roi. Et voilà, toute souffrance, que toute souffrance puisse tomber, tout combat inutile puisse tomber. Parce que Dieu veut lui-même prendre soin de nous. Voilà, parce que cette réalité du royaume, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ceux qui regardent vers lui sont rayonnants de joie. On peut être dans la joie. C'est vrai que Satan va encore continuer à nous cribler, mais on peut être dans la joie de tout ce plan qui se déroule quand même, et du happy end qui arrive aussi. Hein. Du happy end qui va arriver, ce repas dans les lieux célestes qui va arriver, pour tous ceux eh ben, qui reconnaissent ce roi, pour tous ceux qui acceptent la royauté dans leur vie. Et pour les autres, malheureusement, il est parlé d'enfer, il est parlé de grincement de dents et de colère de Dieu à des degrés divers. Paul dit ceci, « Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » En conclusion, voilà, il me semble que tout ce qu'on a échangé nous amène à une conclusion assez simple. D'abord, la première chose, c'est la joie, la reconnaissance. Merci Seigneur pour tout ce plan gratuit pour nous, alors que nous ne méritons rien. Tu es venu nous chercher, tu nous aimes, tu nous rends héritiers, tu vas nous accueillir. Enfin, c'est incroyable ce que l'on voit, ce qu'on verra. C'est formidable. La deuxième point, bien sûr, c'est la prière pour nous. De comprendre toujours davantage ce royaume et de nous aligner à ce royaume, et surtout quand on est au fond du trou, quand Satan nous attaque, parce qu'il va nous attaquer, qu'on arrive toujours à lever les yeux. Non, il y a autre chose. Non, le royaume de Satan, enfin c'est pas un royaume, c'est une petite principauté qui est déjà écrasée. Remettre les choses dans leur contexte. Notre Dieu est tout puissant. Satan est déjà mort en fait. Il nous attaque, ok, je ne vais pas céder, moi je veux servir le roi des rois. Donc voilà, nous édifier, et nous édifier les uns les autres aussi, l'Église s'est fait pour ça, pour qu'on tienne bon tous les combats. Et puis la prière pour notre monde, et bien sûr, parce que nous l'avons vu, Dieu accueille tout le monde, il a un trône de grâce, il a tout fait, mais voilà. Notre monde ne le reconnaît pas, pas tout le monde le reconnaît. Peut-être certains de nos proches ne le veulent pas le reconnaître non plus. Donc prions, que notre monde le reconnaisse, que nos prochains, nos parents le reconnaissent, que leurs yeux s'ouvrent. Parce qu'il faut l'intervention de Dieu pour que les yeux s'ouvrent. Il faut l'intervention de Dieu pour que le cœur de pierre se transforme en cœur de chair. Et pour être sensible, pour avoir un cœur sensible, il y a besoin de notre prière, Parce que Jésus prie tout le temps. Et nous aussi, c'est notre devoir, notre appel de prier. Je vous invite à prier pour terminer. Seigneur, nous sommes dans la joie de tout ce qu'on a pu voir, de tout ce que tu es, de tout ce que tu fais pour nous, de tout ce que tu prépares. Détruis ce qui nous éloigne de toi, Seigneur, pour que tous les jours, nous te reconnaissions comme roi dans notre vie. Et nous te prions aussi pour notre monde, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui te repoussent. Seigneur, s'il te plaît, prends pitié de chaque personne sur terre. Amène-les à toi. Au nom de Jésus. Amen.